Alors aujourd'hui, on va parler du Boustrophédon. Le Boustrophédon, c'est une revue d'art. Et le numéro 17 de ce mois de mars 2021 vient de paraître. Et il est consacré à un artiste montalbanais décédé il y a quelques années, qui était une figure locale du centre-ville de Montauban, qui s'appelait et qui s'appelle donc Armand. Ce Boustrophédon est sous-titré L'Outsider. Il est le fruit du travail de Hugues Dedi, ici présent, à l'invitation de Grégory Pamadou. Grégory Pamadou, le Boustrophédon, c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez créé, cette revue d'art. On parle de vous un petit peu en ce moment sur CFM Radio parce qu'on est venu faire quelques reportages sur votre école de dessin, l'Académie Ingres, et aussi sur le mini-musée que vous y avez. Que vous y avez créé. Mais pourquoi à l'époque il ne tourne plus? On ne peut plus le voir, ce mini-musée?
La réalité qu'on a en ce moment complique les choses. D'accord. Les musées, on ne peut pas les visiter. Et comprenez bien qu'un mini-musée, c'est super compliqué.
D'accord. Mais
visiter.
Enfin, il existe et on pourra le revoir.
Voilà, il reviendra.
Parce
forcément.
Que ça va s'arrêter quand
après
même.
Après la pandémie.
Ça va s'arrêter.
On croise les doigts.
On est d'accord. Messieurs, bonjour. Bonjour Hugues. Bonjour. Bonjour Grégory.
Bonjour Rémi.
Pour resituer, Grégory Pamadou à Montauban, c'est l'école de dessin, l'Académie Ingres. Et tu lui donne des cours de dessin et de peinture régulièrement.
Oui, toute l'année, oui.
Et puis, tu as créé le Boustrophédon, cette revue d'art dont tu vas nous expliquer l'idée générale, si tu veux bien.
Alors, le Boustrophédon, je l'ai créé en 2016. Pour l'instant, je peux le dire, c'est la seule revue d'art du Tarn-et-Garonne. Et quand je l'ai créé d'emblée, je lui ai donné un double objectif. Le premier était de faire le contrepoids et de réagir par rapport à l'omniprésence de certaines grosses revues nationales comme L'Œil ou la revue Beaux-Arts ou des revues du type Art Tension qui vont plus s'adresser à un public d'art contemporain, d'une part, mais surtout qui vont plus s'intéresser à des artistes parisiens, londoniens ou new-yorkais. L'idée avec le Boustrophédon, c'était de parler de l'art de notre localité, du Tarn-et-Garonne, voilà, donc de ce qu'on a à côté de chez nous.
D'accord.
L'artiste, ça, c'était le premier objectif.
En circuit court.
Exactement. L'artiste en circuit court. Le second objectif était de réhabiliter dans le domaine des arts, une cause qui m'est chère, c'est la cause des femmes. Dans la mesure où, en allant étudier l'histoire de l'art aux archives départementales ou au centre d'archives de la municipalité de Montauban, je me suis aperçu qu'il y avait très peu de femmes présentes dans le domaine de l'art.
D'accord.
Et pour ce faire, je me suis dit qu'avec la revue Boustrophédon, j'allais alterner au rythme des publications un homme et une femme, et de cette manière insérer dans l'histoire de l'art de notre localité une présence des femmes.
D'accord. Voilà. Donc, alors ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait quand même un certain nombre pour pouvoir établir sur la distance une revue mensuelle, parce qu'elle est mensuelle, c'est ça ?
Elle est bimensuelle. C'est tous les deux mois qu'elles sortent.
Tous les deux mois,
voilà.
D'accord.
Alors oui, elles existent. Je prends un exemple tout simple. Une exposition dans les années 50 au Théâtre de Montauban. L'histoire de l'art local n'a retenu que quelques peintres qui étaient des hommes. Et pourtant, j'ai mis la main aux archives départementales sur le catalogue d'exposition et il y avait autant de femmes que d'hommes.
D'accord.
Donc c'était une réalité... qui perdure encore un peu aujourd'hui. Et puis on espère...
Et alors du coup, les artistes, que ce soit des femmes ou des hommes que tu vas mettre en avant dans le Boustrophédon, comment tu racontes leur histoire? Comment tu fais revivre
cette histoire? La forme d'une interview. Alors,
pour ceux qui sont vivants.
Pour ceux qui sont vivants, tout à fait.
Pour celles et ceux qui sont vivants.
Pour celles et ceux qui sont vivants. Sous la forme d'une interview, je me rends directement chez les artistes que je contacte après avoir suivi leurs travaux sur l'année, et ainsi de suite. Et après, donc, c'est interview et prise de photos et portraits, et ainsi de suite. Et après, tout est publié dans la revue.
D'accord.
Et envoyé aux abonnés.
Alors, c'est une petite revue. Hein. En fait, si on le déplie, la revue...
On est au format A5.
C'est un format A5 qui est plié en 4, hein, c'est ça ?
C'est ça, exactement. D'accord. Exactement.
Et la part est belle, en tout cas, dans celui que j'ai dans les mains sur Armand, l'Outsider. Il y a une grande partie, c'est des photographies de ses œuvres.
Oui.
Et puis sur la quatrième de couve, on dit.
Oui, la quatrième de couve, une petite critique, un rappel de qui était Armand.
D'accord. Alors, signé Grégory Pamadou. Ah tiens, je m'attendais à voir Hugues Dedi écrit quelque part.
Il y est écrit, puisque sans Hugues Dedi, le clin d'œil à Armand n'aurait pas pu se faire,
ouais.
Dans la mesure où il est à l'initiative d'exposition sur Armand. Il est à l'initiative du musée d'Armand qui existe sur Internet et où on découvre quand même énormément de choses sur Armand.
Alors bah tiens, on va en parler maintenant donc de cet Armand qui fait donc le Boustrophédon numéro 17. Hugues Dedi, Armand, c'était un drôle de personnage que j'ai eu le plaisir de connaître il y a une vingtaine d'années de cela. Il était sur le marché de la place nationale tous les samedis matins avec un stand d'objets fabriqués en bois et d'autres objets hétéroclites. Et il imitait le bruit des oiseaux. D'aucuns disaient qu'il était un peu arriéré, en tout cas que c'était un personnage un peu folklorique, quoi. Est-ce que tu peux nous présenter ce personnage ?
Je préfère le mot folklorique. Bah, en fait, Armand, pour généraliser, on a eu beaucoup de chance de rencontrer un personnage qui a une charge poétique aussi forte. Tu l'as rappelé, c'est quelqu'un que l'on rencontre beaucoup dans Montauban, dans toutes les manifestations. Il est toutes les semaines sur le marché avec un stand où il vend ses productions d'art. Il est également à toutes les fêtes locales, toutes les fêtes un peu paroissiennes, toutes les fêtes de quartier. Et puis, c'est effectivement un personnage qui déambule les rues en imitant des oiseaux. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement singulier qui a forcément énormément marqué les Montalbanais par son art, par sa présence également, sa bonhomie, son humour, ses imitations. On en garde un souvenir très très fort. Voilà en gros. Alors Armand, c'est au départ Alors c'est pas du tout un simple d'esprit. Il joue le simple d'esprit, mais enfin, Armand est tout à fait normal, comme vous et moi. C'est une posture absolument qui vise un petit peu à recueillir un peu d'affection ou un peu de reconnaissance qui lui manquait beaucoup. C'est quelqu'un qui a eu une enfance quand même assez difficile, marquée par une enfance difficile.
D'accord.
Et puis, bon, il a commencé à travailler. Il était menuisier à l'usine La Capelle. Mais bon, ça n'allait pas. Vraiment, il n'était pas...
La légende disait qu'il avait reçu un marteau sur la tête qui était tombé d'un échafaudage sur un de ses chantiers.
Alors, c'est une légende. J'ai essayé d'enquêter là-dessus. Il s'est passé quelque chose, effectivement... Mais c'est pas bien clair. Et beaucoup de gens souhaitent rester discrets sur cet événement. En tout cas, il semblerait que ça effectivement qu'il y ait eu une incidence et que à partir de cet événement, Armand ait peu à peu quitté la vie sociale telle que nous la vivons tous, qu'il se soit un petit peu isolé de plus en plus et un isolement qui l'a conduit à devenir SDF, donc à toucher vraiment le fond du fond, un isolement social total. Alors il y a à la fois un choix et puis il y a quelque chose aussi qu'il subit. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, parce qu'il y a souvent chez le SDF quelque chose qui a l'ordre, qui est de l'ordre de l'affectif et de l'intimité, ce qui correspond tout à fait à Armand. Ce sont vraiment deux failles que l'on retrouve déjà dès son enfance. Mais il ne faut pas voir ça non plus comme quelque chose d'entièrement négatif. C'est-à-dire que cette descente aux enfers lui permet aussi de se former, de devenir un autre homme. D'abord par une approche avec les arts, il crée de plus en plus. Alors il commence par des jouets, il s'intéresse à l'art, il lit, et peu à peu, il construit son univers artistique. Et c'est ce qui lui permet de revenir complètement dans la société avec un statut qu'il revendique comme artiste et de trouver au sein de la société des hommes une place, la place qui lui convient,
oui.
L'Armand que nous connaissons.
Alors il arrivait avec une mobilette complètement...
Une carriole.
Il y avait une carriole traînée par une mobilette, c'était jamais la même d'ailleurs, enfin la mobilette c'était un espèce de bricolage, on se demandait comment ça tenait, il installait effectivement son stand et il était toujours ravi quand on arrivait au marché, il allait vers les gens, je sais qu'il venait vers moi par exemple, oui. Et avec un grand sourire il me disait, tiens, est-ce que t'as vu ma dernière trouvaille ou ma dernière création, c'est ça, et il nous faisait la visite de son stand sur laquelle il y avait effectivement, ça ressemblait souvent à des jouets et ce que sans doute on appelle de l'art brut ou de l'art modeste, c'est
oui.
ça, l'art modeste.
L'art modeste, l'art brut, moi je préfère pas, l'art modeste, l'art modeste, l'art singulier. Oui. En fait, il faut savoir que ce qu'on voyait sur son stand le samedi, c'était pas sa production, c'était pas sa meilleure production. Armand, il venait tous les matins sur la place nationale et il venait avec ses productions de la nuit, de la veille, qui souvent n'étaient pas sèches, et c'était là qu'il les vendait. C'est là que les collectionneurs d'Armand achetaient ce qu'il y avait de meilleur d'Armand. En fait, le samedi matin, il y avait les invendus.
Les crus.
Voilà, tout partait d'emblée.
D'accord. Oui. Il y avait beaucoup donc de collectionneurs. Est-ce que toi, tu en faisais partie, par exemple?
Moi, j'en faisais partie. Ouais. Et je voyais Armand pendant plus de 10 ans, je voyais Armand tous les matins. Et j'avais la primeur de ses dessins, de ses photos, de ses sculptures. Oui. Et donc, j'ai acheté beaucoup de choses à Armand. Comme ça, on était devenus des amis.
Bien sûr, dans le temps, oui.
Et je n'étais pas le seul. En fait, il avait tout un circuit à Montauban, dont je faisais partie, mais un circuit de collectionneurs, de gens vraiment sensibles à sa démarche, qui lui achetaient des choses.
Oui.
Et donc, il faisait ce circuit tous les matins.
Alors, on va regarder justement sa production. Vous allez nous en parler. Vous êtes sur CFM Radio. On est en compagnie donc de Grégory Pamadou, auteur, éditeur, inventeur du Boustrophédon, cette revue d'art tarnais-garonnaise qui paraît donc tous les deux mois. Ce numéro 17 est consacré à Armand, sous-titré donc L'Outsider.
L'Outsider,
Grégory,
oui.
Pourquoi L'Outsider ?
L'Outsider, c'est celui qu'on n'attend pas. L'Outsider, c'est celui qui nous fait la surprise. Et Armand, tous les jours, faisait la surprise. Beaucoup d'artistes cherchent de la reconnaissance, beaucoup d'artistes sont dans le calcul, parce que tout naturellement, ils ont leur ego et ainsi de suite. Armand, lui, n'était pas du tout dans tous ces calculs stratégiques que peuvent avoir les autres artistes ou quelqu'un de normalement constitué. Lui, il créait généreusement et il mettait ses créations à disposition du public sur son petit stand. Et en ça, c'est un outsider. Il arrivait là où on ne l'attendait pas.
Ses œuvres lui permettaient de vivre ou survivre, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que ça lui a permis, par exemple, de quitter la rue et de reprendre, d'avoir un logement
Alors, dans son histoire, non, ce n'est pas tout à fait son art qui lui a permis de quitter la rue. En fait, Armand, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement aimable. C'était vraiment un homme de cœur.
Un homme bon.
Et lorsqu'il était SDF, il y a eu beaucoup d'amis qui ont tout fait pour essayer de lui obtenir une protection sociale. Et donc
le RSA ou quelque chose comme ça.
Oui, alors il avait une autre, je ne saurais pas dire, mais enfin, il avait une petite aide. Voilà,
oui.
Exactement, une petite aide. Et il avait un tuteur également, donc qui gérait tout ça. Et c'est véritablement ça qui l'a permis un peu de sortir socialement, en fait, de son statut d'SDF. Il gagnait quand même des sous, parce que... par exemple, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que ce qu'il me vendait à moi 50 euros, il le proposait à 10 euros ailleurs, quoi. mais bon, il savait que... voilà. Et en même temps, Armand, c'était aussi un panier percé. Il avait 10 euros dans sa poche, il allait tout de suite faire développer des photos, acheter un truc, voilà. Il avait vraiment un problème avec la gestion de l'argent. Donc, il ne vivait pas trop de son art, mais ça ne l'intéressait pas de vivre de son art. Lui, il voulait plutôt...
partager.
Le montrer, obtenir une certaine reconnaissance à travers cet art, mais avant...
Avoir un statut social au travers cet art.
Bah, oui. Avant la reconnaissance, il y a surtout, chez Armand, c'est ce qui est le plus important, il y a la nécessité de
d'aller
s'exprimer
vers l'autre.
À travers le dessin, à travers la sculpture, c'est une nécessité qui est aussi profonde que de manger, que de respirer. Ça fait partie de sa vie. Qu'ils vendent ou qu'ils ne vendent pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ce qui est en lui, la façon dont il voit le monde, la façon dont il vit dans le monde, s'exprime à travers ses créations d'art. C'est quelque chose qui lui est vital. Et c'est en ça que c'est un artiste. Avant d'être brut ou outsider ou singulier, c'est une nécessité vitale d'expression.
Oui.
Alors, Armand... au départ, son métier, c'est menuisier quand même.
Oui.
Donc, est-ce que ses œuvres, elles passent par le bois et la taille du bois, par exemple, au départ ? C'est plutôt son
médium. On ressent cette expérience de menuisier dans ses objets, parce qu'il a fait pas mal d'objets qu'il découpait, effectivement. On ressent qu'il a quand même de la technique.
Voilà.
Il est plasticien. Enfin, il y a le sculpteur et il y a le
dessinateur. Oui.
En fait, il y a chez Armand deux dans sa production. Il y a une production d'art et puis il y a une production. Je trouve pas le mot. Je veux dire usuel, mais c'est pas le mot exact. C'est-à-dire qu'il y a une production d'art, c'est-à-dire des sculptures, des peintures,
et artisanales.
Et il y a une production totalement artisanale qui comprend des brouettes. Il en a fait énormément.
Ouais.
Des vide-poches,
des nichoirs
pour les oiseaux, beaucoup.
Oui.
Des choses utiles.
Voilà.
Tout à fait.
Des choses utiles. Oui, tout à fait. Je n'ai plus le mot qui me revient, mais effectivement, ce sont des objets à caractère utilitaire.
Ouais.
Et ça, il en a fait beaucoup. Et c'est directement lié, c'est souvent avec du bois, c'est directement lié à son métier.
Oui, oui.
Et est-ce que ce n'est pas aussi cette partie-là pour dire je suis peut-être artisan, mais pas forcément artiste
Il y a quand même aussi, à travers ces jouets, une expression profonde. Il ne faut pas oublier que Armand, déjà, a eu une enfance difficile, mais il est à une époque où le jouet n'est pas quelque chose de commun, où les enfants fabriquent eux-mêmes leurs propres jouets. Armand,
oui.
Il vient de cette école-là. Et puis, le jouet, ça le rattache à l'enfance. En même temps, lorsqu'il fait des nichoirs aussi, Armand a une relation très particulière avec les oiseaux.
Oui.
Pour les imiter de la sorte, il a très certainement passé de très longues heures dans la nature à écouter les oiseaux, à entendre leur subtilité, à les distinguer. Il a une affection profonde pour les oiseaux. Lorsqu'il vivait dans un garage à Sapiac, il vivait avec des oiseaux. Il y avait des oiseaux dans son garage qui piaillaient. Il y a une relation très intime avec les oiseaux. Donc à la fois, effectivement, il y a la nécessité de faire des objets fonctionnels en rapport avec son premier métier, mais il y a aussi l'expression de ce qu'est Armand dans la relation à l'enfance ou dans la relation animale.
Oui, une forme de réparation de son enfance au travers de son art.
Des sculptures ludiques, talentueuses et réellement évocatrices. C'est comme ça qu'est titrée la double page. Alors, il y a l'homme-ciel. C'est une sculpture en plâtre peinte de bleu avec des nuages blancs. Voilà, il y a toujours ce côté très enfantin, très naïf. Hein, on peut dire peintre naïf ou pas ? Ou sculpteur naïf ou...
Il n'est pas tout à fait vraiment dans ce qu'on appelle l'art naïf. Il est vraiment plutôt dans l'art singulier, l'art
outsider. C'est difficile de le cataloguer.
Ouais. D'accord. Et après, sur ses tableaux, ce qu'il utilise, c'est quoi ? C'est des pastels, c'est des peintures ?
Il aime beaucoup le pastel. Ouais.
Pastel à l'huile, oui. Toutes sortes de peintures acryliques, également de la peinture à l'huile. Il a fait beaucoup de dessins au crayon de couleur. Oui. Ses créations sont toujours très colorées et pleines d'énergie.
Alors, on peut retrouver toute l'histoire d'Armand sur le site internet que vous lui consacrez, Hugues Dedi, musée-armand.blogspot.com. Et puis, évidemment, on en parle sur le site internet de la revue du Boustrophédon, hein, boustrophédonrevue.wordpress.com.
Tout à fait.
Est-ce que ça va prendre de la valeur, les collections d'Armand ? Est-ce que ça a déjà pris de la valeur ? Est-ce que ça a une valeur plus sentimentale ou est-ce que réellement, dans le monde de l'art, on commence à dire, ah bah tiens, si, Armand, une œuvre d'Armand, ça vaut quelque chose ?
Alors, oui, je dirais que les créations d'Armand ont pris de la valeur du fait de sa disparition. Donc, il y a rareté. Mmh. Et comme il y a rareté, ces créations prennent de la valeur forcément. Après, elles s'inscrivent dans un long chemin qui associe à la fois l'affectif et l'esprit du collectionneur. Donc il y a des collectionneurs qui veillent jalousement à leurs acquisitions qu'ils ont pu faire auprès d'Armand à l'époque où il était vivant.
En fait, dans le marché de l'art, puisque le marché de l'art, c'est un business, hein, il y a le mot marché, c'est un business, on constate que l'art brut, tel que le faisait Armand, prend de plus en plus de valeur et s'arrache à des prix qui commencent à devenir très intéressants. Alors, spécifiquement Armand, je ne sais pas, je sais que une fois, j'étais en contact avec un collectionneur parisien qui m'a offert, qui m'a proposé de racheter quelques sculptures d'Armand à des prix qu'Armand n'avait jamais envisagé. C'est pourquoi aussi j'ai aussi renoncé à l'idée de déposer tout ce que je possède d'Armand dans des musées consacrés à l'art brut, puisque la politique des musées est quand même assez pathétique en France.
Oui.
Et les musées consacrés à l'art brut, beaucoup en France, revendent ce qu'on leur donne, les dons qu'on leur
le
fait,
manteau.
Pour se financer. Ouais. Voilà. Le seul musée, je dirais, correct, qui conserve véritablement les fonds d'art brut, c'est le musée de Lausanne. Mais oui, en France, on vend, ça se vend encore très régulièrement.
Et pour finir, est-ce que ce musée qu'on voit sur Internet, est-ce qu'on peut à un moment l'imaginer en expo, même temporaire, par exemple, à l'ancien collège ou à l'Académie Ingres, par exemple, pour...
Alors, il y a déjà eu une expo qui a été réalisée avec François Verlin à la Maison du Crieur, une expo qui a eu beaucoup de succès. C'est une des expos où il y a eu le plus de monde de l'histoire de la Maison du Crieur, et qui montre bien combien Armand est un personnage historique dans Montauban.
Disparu en 2009, hein, on ne l'a pas dit, mais il est né en 51, il est mort en 2009.
Sinon, c'est quand même très difficile de faire une exposition, parce que moi, je n'ai pas non plus suffisamment de choses pour faire une exposition. C'est très difficile parce que il faut contacter énormément de personnes pour retrouver... maintenant, je sais à peu près qui a quoi. Mais voilà, ça demande toute une organisation collective qui est lourde à mettre en place. Mais il ne faut jamais dire non. Je crois que...
En attendant, bravo, vous faites vivre la mémoire d'Armand, donc sur Internet, je l'ai dit tout à l'heure, et puis au travers donc, de ce Boustrophédon numéro 17, vous lui rendez hommage. Merci Grégory Pamadou, Hugues Dedi, d'être venu en parler sur CFM Radio.
Merci
de nous avoir
reçus. Merci.
Le prochain Boustrophédon, ce sera sur ?
Ce sera sur une femme, et ça sera dans 2 mois.
Merci.
La surprise sera de taille.